Nous recevrons dans quelques instants Jérémy Filosa avec les derniers développements dans le dossier d'un nouveau stade du côté de Tampa Bay, dossier qui semble au point mort et de l'hypothèse qui prend de plus en plus de valeur de peut-être éventuellement, sans s'enflammer, s'emballer du retour du baseball à Montréal. Donc, à ne pas manquer dans la deuxième partie de la demi-heure. Et juste avant de retourner au Minnesota, je veux absolument faire entendre un extrait d'entrevue de Marc Bergevin en compagnie de Ron. On remonte au mois d'octobre à la fin du camp d'entraînement, l'entrevue habituelle que le DG accorde à Ron en début de saison. Entrevue au cours de laquelle il a commenté l'avenir à court terme de Ryan Poehling, cet espoir du Canadien, premier choix repêchage, qui évolue actuellement avec une très bonne formation universitaire. Poehling a dit aux médias, parti le rencontrer là-bas, il y avait des articles, notamment dans le Journal de Montréal, que lui, il va prendre une décision à la fin de l'année. Mais à la lumière des discussions que Poehling a eues avec Marc Bergevin et le personnel qui représente le Canadien, Marc Bergevin a d'autres infos, mais tout en nous rappelant que c'est le joueur ultimement qui a le choix. Mais écoutons ce que Marc Bergevin disait au sujet de Poehling à Ron en octobre.
Mais le plan, c'est de le sortir cette année, mais qu'il finisse son collège. Ça, c'est le plan que le Canadien de Montréal a. On a eu des conversations avec lui durant l'été.
Ah!
Puis c'est encore là, c'est lui qui est en charge, puis je pense qu'il va avoir un bel avenir. Puis le plan, toujours le joueur qui décide, parce que s'il veut rester, mais là, on peut pas... Tu peux lui offrir tout ce que tu veux, c'est à la fin de la journée, mais je pense que lui-ci, son focus est de finir l'année à Saint-Cloud, puis tourner professionnel à la fin de l'année, qui serait probablement au mois de mars.
Donc, un premier choix qui rejoindrait l'effectif du Canadien professionnel, soit à Laval ou soit du côté de Montréal. On a vu ça dans le passé. Parfois, la marche était peut-être moins difficile à grimper. Je me rappelle de cas comme... Vous vous souvenez de Steve Rooney, qui était sorti de l'université, David Mailey. Il y avait eu Tom Kervers. Même Chris Chelios, je pense, était venu jouer une fin de saison avant de jouer une saison complète. Maintenant, on retourne au Minnesota. Marc-Antoine Godin du site athlétique.com est avec nous. Bonsoir, Marc-Antoine.
Bonsoir, Mario.
Comment vois-tu l'avenir à court terme de Ryan Poehling? Penses-tu... C'est difficile d'évaluer là, parce que ça prend des comparables de voir est-ce qu'il y a des gars qui sont directement sortis de l'université puis lui n'est pas à la fin de son stage universitaire donc est encore jeune, sous les 20 ans. On va le voir au championnat du monde junior. Ça sera un bon barème quand même de comparaison, championnat du monde junior, pour voir si c'est un gars qui est proche de pouvoir aider le club de la Ligue nationale.
Oui, ben il va avoir un rôle de premier plan avec l'équipe américaine. S'il n'est pas capitaine, je m'attends à ce qu'il ait certainement une lettre sur son chandail. Donc c'est un gars qui va avoir un rôle de premier plan au sein de cette équipe-là. On va probablement pouvoir voir aussi mesurer l'étendue de son potentiel offensif. Avec Saint-Cloud cette année, il se distingue surtout en tant que fabricant de jeu. Mm-hmm. Il a seulement 3 buts à son actif. Alors les gens vont se dire ouais, peut-être qu'il n'a pas l'instinct du marqueur, mais il a 1 point par match. À cause principalement du fait que il multiplie les mentions d'aide et les jeux créatifs. Donc c'est un il s'annonce. Je pense que quand on regarde son avenir à long terme dans le hockey avec le Canadien, moi je m'attends à ce qu'il soit au bas mot un centre de troisième trio. S'il devient un centre de deuxième trio, ce sera un boni. Mais quand tu es en mesure entre 20 et 30 en première ronde du repêchage d'aller chercher un joueur qui va jouer sur ton top 9 et qui va remplir des missions particulières, dans son cas autant au point de vue offensif que défensif, ben ce serait vraiment une victoire pour le Canadien. Donc ça va être vraiment intéressant de suivre. J'avais pas mal eu les mêmes infos que Ron à cet effet-là, comme quoi Marc Bergevin en fait tenait le même discours à l'effet que il s'attendait à ce que Poehling devienne professionnel. Sauf que je me pose la question, puis je parle tout haut, je n'ai pas la réponse là-dessus parce qu'il y a des éléments techniques. Mais avec le repêchage d'expansion qui va venir en 2021,
oui.
Les joueurs qui ont deux années d'expérience chez les professionnels et moins vont être exemptés de la liste de protection. Or, si Poehling joue des matchs dans le professionnel à la fin de l'année, est-ce que ça va être compté comme étant une année chez les pros, comme ça a été le cas, par exemple, pour Charlie Lindgren quand il est venu finir la saison à Montréal il y a deux ans.
Ouais, alors, c'est un excellent point.
Oui, alors, donc, dans ce cas-là, ça, c'est des éléments, c'était le plan, comme disait Marc Bergevin, c'était le plan au mois d'octobre, mais à cette époque-là, le scénario de Seattle n'était pas encore dans le décor. Alors là, peut-être que ça va changer la donne et qu'on va dire, ben écoute, au terme de ton stage universitaire, on va faire comme on le fait avec la majorité des joueurs universitaires, c'est-à-dire de dire, on te fait signer ton contrat durant la saison morte, puis on te donne rendez-vous au camp de développement à l'été.
Il y a de quoi faire réfléchir, effectivement, avec la donne de l'expansion que tu amènes dans la discussion, tout à fait. Et juste juste pour compléter sur Poehling, je veux signaler qu'effectivement, beaucoup de passes cette année, 3 buts, 14 passes, 17 points en 16 matchs. L'an passé, c'était plus partagé entre sa production de buts et de passes. 14 buts, 17 passes, 31 points en 36 matchs. Il pourrait peut-être connaître une transformation à la Max Domi. Max Domi, 9 buts à ses deux dernières années. Il en a 14 en 30 matchs jusqu'ici cette année. Un autre dossier dont je veux te parler, parce que la rumeur, l'information est sortie du Athletic.com sous la plume d'un de tes collègues qui alléguait qu'il y a plusieurs équipes, en tout cas, il y a au moins trois équipes, dont le Canadien de Montréal, qui longue du côté du Minnesota et qui s'intéresserait à Charlie Coyle. Qu'est-ce que tu en penses? Et penses-tu que c'est quelque chose qui peut aboutir, malgré le démenti véhément du relationniste de l'équipe aujourd'hui?
Oui, effectivement. Écoute, là-dessus, je comprends tout à fait l'intérêt du Canadien envers Charlie Coyle. C'est pas un intérêt qui date d'hier. Le nom de Charlie Coyle est lié au Canadien, où on prête de l'intérêt au Canadien envers Coyle depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans environ. Mais c'est un nom que, semble-t-il, c'est un joueur que Bergevin a à l'œil depuis un bon bout de temps. Il est autant capable de jouer à l'aile qu'au centre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le Canadien, en ce moment, semble avoir réglé ses problèmes au centre. Puis tu mentionnais le nom de Poehling. À l'avenir, ça semble encore plus rose à ce niveau-là. Sauf que s'il devait y avoir une blessure à un des trois premiers centres de l'équipe, que ce soit Domi, Dano ou Kotkaniemi, on arrive rapidement à la fin à la fin de notre profondeur, parce que là après ça on se tourne vers qui est-ce qu'on demande au quatrième centre de devenir le troisième, on réintègre Matthew Pekka dans l'alignement, est-ce qu'on demande à un Byron ou un Shaw d'aller au centre? Les options sont limitées. Coyle est un droitier, c'est un joueur donc qui est capable de jouer autant à l'aile qu'au centre. Est-ce que c'est un scénario que je vois à court terme? Pas vraiment, parce que là, en ce moment, le Wild est privé de Mikko Koivu, et la durée de son absence est encore nébuleuse. Et le Wild utilise Coyle exactement de la même manière que je te le décris là, c'est-à-dire qu'il est utilisé d'abord et avant tout à l'aile, mais dès qu'il y a un besoin au centre, c'est à lui qu'on fait appel pour devenir joueur de centre. Et d'ailleurs, on va le voir au centre du deuxième trio ce soir face aux Canadiens.
J'en ai parlé à Danny, et c'est pas pour tomber dans la redondance, mais surtout pour avoir possiblement un point de vue différent. Danny a suggéré hier que si jamais le Canadien faisait une transaction semblable, bien Kotkaniemi est le gars qui risquerait d'écoper. Comment tu analyses ou qu'est-ce que tu entrevois du reste de la saison de Kotkaniemi, tout en considérant que c'est sûr que ce continue de faire ça à glace va dicter, je pense que c'est lui qui va décider dans une certaine mesure, là, de par la nature de ses performances. Il joue sur la première unité d'attaque massive. Il y a 3 passes à ses 3 derniers matchs, mais on peut pas dire qu'il allume le jeu de puissance. On remarque pas plus lui qu'un autre.
Non, il y a pas
le besoin d'un repos à lui accorder pour qu'il finisse fort. Entrevois-tu peut-être, même si c'est 5% de possibilité selon Marc Bergevin, un séjour au championnat du monde, ou même peut-être un petit traitement ou une petite période avec le Rocket de Laval, bref.
Oh non. Moi, je vois pas du tout un épisode à Laval dans son cas. Je pense que si le Canadien était préoccupé par une quelconque baisse de régime, s'il y avait un endroit où il l'enverrait, ce serait au championnat mondial junior. Question qu'il se retrouve avec des jeunes de son âge qu'il domine à un niveau qui prenne une confiance, quoique la confiance, c'est pas ça qui lui manque, mais d'être capable donc de guider.
Dans un haut niveau de compétition aussi.
Oui, exactement. Puis c'est avec des jeunes joueurs qui sont dans plusieurs cas des joueurs de talent Ligue nationale, c'est juste qu'ils n'ont pas encore l'âge ou l'expérience pour l'être. C'est sûr que ce serait peut-être une coche. Évidemment, il descendrait d'une marche par rapport à la Ligue nationale. Moi, ce que je craindrais en l'envoyant au Mondial Junior, c'est que c'est un joueur qui a tellement une bonne anticipation du jeu et une vision. Il voit un peu dans l'avenir, Kotkaniemi, dans sa façon de jouer. Et il a besoin de jouer avec des bons joueurs qui vont être capables de répondre à là où il veut aller, puis là où il veut envoyer la rondelle, puis est-ce qu'il serait un peu freiné par des joueurs qui, plus jeunes, moins expérimentés, ben dans certains cas moins talentueux aussi, qui seraient pas capables de suivre son rythme. Alors,
qu'est-ce que pourrait coûter un gars comme Coyle, selon toi, Marc-Antoine, à une équipe qui est intéressée à ce service?
Oui, c'est ça, c'est une bonne question. Je me suis pas encore fait tout à fait une tête à ce niveau-là, parce que la valeur de Coyle semble avoir baissé beaucoup au cours des 2-3 dernières années. C'était un gars que je pense le Wild avait vu comme étant beaucoup plus prometteur à l'attaque, comme étant un joueur, un plus grand contributeur à l'offensive. Sauf que là, il arrive à 26 ans. Il a vraiment pas produit à la hauteur de ce qu'on espérait au cours des 2 dernières saisons. Faut dire que l'année dernière, il a souvent été blessé. Mm-hmm. Mais c'est un gars qui, arrivé là où il est, comme on dit, il est ce qu'il est. Et puis, je pense que ce serait pas se rendre service ni pour le Canadien, ni pour le joueur lui-même, de dire ben on rêve à ce qu'il devienne un attaquant top 6 de premier plan. Je pense que si le Canadien faisait son acquisition, ce serait un joueur qui serait d'abord et avant tout utilisé sur le troisième trio. Moi, si le Canadien allait le chercher, moi, je pense, contrairement à Danny, je ne pense pas que ça aurait un impact sur Kotkaniemi. Je pense que ça en aurait un sur les ailiers du top 9, sur Shaw, Byron, Lekkonen, ces gars-là. Et puis, donc c'est ça. Et puis, mais sauf qu'il y a quand même une possibilité qu'il puisse aider, qui c'est sur le top 6. Sauf que c'est pas un gars qui s'est manifesté vraiment par son instinct de marqueur. Il a passé beaucoup de temps en avantage numérique sans que rien se produise. C'est un gros bonhomme. Moi, ce que j'entends ici, c'est que c'est un gros bonhomme, oui, mais qui est passif à l'occasion. Mais j'ai bien hâte de voir ce soir quel rendement il va donner, parce que je vais l'avoir à l'œil.
As-tu l'impression que Marc Bergevin voit son équipe encore un potentiel complexe de gabarit compte tenu de la quantité de petits joueurs?
Ben, écoute, c'est quand même une des plus petites équipes de la Ligue nationale, une des équipes les plus légères de la Ligue. Et ça n'a pas été un problème jusqu'à maintenant, sauf que ça le devient normalement. En fait, c'est ce que l'histoire nous a démontré. Plus on avance dans les saisons, puis quand on arrive en séries éliminatoires, c'est quelque chose qui fait une différence.
Vraiment.
À ce stade-ci, ça ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, la différence. Et est-ce que on va arriver à un moment dans le hockey où l'accent va être tellement mis sur la vitesse et les habiletés que finalement le gabarit va cesser d'être un facteur? Je ne pense pas qu'on en soit encore rendu là. Et Marc Bergevin, je crois que c'est le genre de dirigeant, d'homme de hockey qui se dit c'est quand même très important, très utile d'avoir des joueurs de plus gros gabarit qui vont avoir ne serait-ce qu'un niveau d'endurance souvent qui va être plus élevé. Alors, quand on regarde un gars, par exemple, comme Joel Armia, qui manque à l'appel en ce moment, quand on entend Claude Julien dire « il nous manque, on aimerait ça le revoir », bien ça, l'élément gabarit, c'est un des facteurs.
La dernière fois que Marc Bergevin a bougé pour du gabarit, Martinson, Dwight King, Steve Ott, ça n'a pas été tellement concluant comme résultat,
non,
s'il le fait dans la même lignée de pensée, que ça sera on aura un meilleur résultat. Marc-Antoine, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Marc-Antoine Godin d'Athletic.com. Au retour, Jérémy Filosa, baseball.